C'est un dimanche un peu particulier que celui que nous vivons, ce septième dimanche de Pâques, car il se situe entre deux grandes solennités, celle de l'Ascension et celle de la Pentecôte. Jésus est parti, il est remonté au ciel, comme nous l'avons célébré jeudi, mais l'Esprit Saint n'est pas encore venu. Nous le célébrerons dimanche prochain. Alors comment vivre ce temps si particulier, ce temps de l'attente? Regardons pour cela la lecture de ce jour. Et commençons par la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, où on voit les apôtres, nous dit Saint Luc, qui ont vu Jésus s'en aller vers le ciel, qui retournent à Jérusalem et qui montent au Cénacle, dans la chambre haute. Ils sont tous rassemblés avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus, avec les frères. Et que nous dit-on? Ils sont d'un même cœur, assidus à la prière. Eh bien, pour vivre ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, nous pouvons d'abord, nous aussi, le faire dans la prière. Et pour cela, en étant disponible à l'action de l'Esprit Saint, mais d'une vraie disponibilité, car la vraie disponibilité, ce n'est pas la même chose qu'une attente passive. La vraie disponibilité nécessite une attente active, une implication personnelle, notamment en priant pour que Dieu agisse en nous par son Esprit. C'est ce qu'ont fait les apôtres avec la Vierge Marie dans la chambre haute du Cénacle. C'est ce que nous sommes invités à faire pendant ces 10 jours qui nous séparent de la grande solennité de la Pentecôte. Être disponible à l'action de l'Esprit Saint, c'est aussi se laisser conduire par l'Esprit, se laisser conduire. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mais on pourrait inverser la formule et on pourrait dire « Tous ceux qui sont fils de Dieu, tous les baptisés, vous et moi, eh bien nous devons nous laisser conduire par l'Esprit Saint. » Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint, ça n'est pas une chose, un objet qu'on recevrait et qu'on pourrait disposer à notre convenance pour faire le bien. Non, dans la vie, l'Esprit Saint, il est représenté par le feu, par le vent, par l'eau vive. Autant de réalités dont on ne peut se saisir et qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas saisir le vent, par exemple. Et nous connaissons ce dialogue de Jésus et Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il ajoute qu'il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Alors, oui, l'Esprit Saint, et nous l'attendons, on ne l'accueille qu'en se mettant, on pourrait dire, dans son sens, qu'en se rendant disponible à son action, et en acceptant de renaître de nouveau, de renaître d'en haut. Vous savez que dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, cette expression, on l'a traduit par « de nouveau » ou « d'en haut », c'est la même chose. Et donc, demandons la grâce de nous mettre sous cette action de l'Esprit Saint pour être agi par lui. Et nous avons donc 10 jours pour le faire, entre l'Ascension et la Pentecôte. Une attente active où nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne dans nos cœurs nous renouveler, renaître, se convertir. Et c'est ce que nous allons demander tous les jours de cette semaine. Si vous venez à la messe en semaine, vous entendrez des oraisons magnifiques. Je vous en lis quelques-unes. Demain, à la messe, en oraison d'ouverture, nous entendrons cette demande. Que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire en acte par une vie fervente. Tout un programme. Mardi, nous entendrons ceci. Que l'Esprit Saint, en sa bonté, vienne habiter en nous et fasse de nous le temple de sa gloire. Ou encore jeudi, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Alors oui, pendant ces 10 jours, nous sommes invités à mettre à profit ce temps où Jésus est monté au ciel, où l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé, nous sommes invités à mettre ce temps à profit en priant et en invoquant activement la venue de l'Esprit Saint dans chacune de nos vies. Après l'assiduité dans la prière et cette demande de l'Esprit Saint, l'Église nous invite pour vivre ce temps entre l'Ascension et Pentecôte à fixer notre regard sur la gloire de Dieu. Et là, je voudrais commenter un petit peu l'Évangile. Fixez votre regard sur la gloire de Dieu tout en priant. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. C'est le début de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est le début du chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, qui est cette magnifique prière sacerdotale. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Là, cette parole, elle peut être mal comprise, bien sûr. Car dans notre monde, la gloire, c'est d'abord la renommée. Et beaucoup sont prêts à tout pour se mettre en valeur. Alors que dans la Bible, nous savons que la gloire, c'est tout autre chose. La gloire dans la Bible, c'est la valeur réelle d'une personne. C'est son poids. Et la gloire dans la Bible est toujours liée à l'amour. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, eh bien, on entend Dieu parler à sa créature et dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. » Et saint Paul le dit à sa manière dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, cet hymne à l'amour que nous connaissons par cœur, « Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je n'ai pas de valeur, je n'ai aucun prix. » Et saint Augustin, permettez-moi de le citer encore une fois, dit « Pandus meus, amor meus, mon poids, c'est mon amour. » Donc dans la Bible, la gloire, c'est la valeur d'une personne, c'est son poids, ce n'est pas la renommée. Et quand nous nous rassemblons le dimanche et que nous rendons gloire à Dieu et que nous chantons pendant la messe, eh bien nous voulons reconnaître le poids, la valeur, c'est-à-dire la solidité, la stabilité, la densité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous le faisons quand nous chantons le gloire à Dieu. Nous le chantons aussi chaque fois que nous disons ces petites doxologies, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Et nous le faisons aussi à la messe, à la fin de la prière eucharistique, dans la grande doxologie, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles. La doxologie, vous savez peut-être qu'en grec, gloire c'est doxa. Et donc tous ces chants que nous disons, voilà, c'est doxologie, sont pour la gloire de Dieu, pour reconnaître ce poids d'amour pour chacun d'entre nous. Alors oui, Jésus demande ceci pour lui-même, Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois, il ne demande pas la renommée pour lui-même, mais il demande à Dieu la grâce de pouvoir donner et de pouvoir se donner, car la gloire est liée à l'amour. En étant glorifié, il pourra se donner totalement et définitivement. Le pape François le disait à sa manière. Je vous cite le pape François. Pour Dieu, la gloire, c'est aimer jusqu'à donner sa vie. Se glorifier, pour lui, pour Dieu, c'est se donner, se rendre accessible, offrir son amour. Et cela a culminé sur la croix, exactement là où Jésus a déployé au maximum l'amour de Dieu, en révélant pleinement le visage de la miséricorde, en donnant sa vie et en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié. Magnifique. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Finalement, comment Jésus va-t-il s'y prendre au-delà de la mort, après son ascension, pour glorifier le Père? Eh bien, ce que nous dit le pape François et l'Évangile, il va le faire en donnant, en se donnant, et en donnant aussi la vie éternelle à chacun d'entre nous. Il veut donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Et si vous avez bien remarqué, dans ce passage de la prière sacerdotale, vous compterez, vous relirez, 10 fois, Jésus utilise le verbe donner. Car la gloire est liée à l'amour. Et l'amour, c'est se donner. Donc en demandant d'être glorifié, Jésus ne demande pas la gloire pour lui-même, mais il se soucie de chacun d'entre nous. Et il veut nous introduire dans sa vie, c'est-à-dire dans la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, nous dit-il au chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean. Alors oui, pendant ce temps qui nous sépare encore de cette fête de Pentecôte, non seulement nous devons nous rassembler pour prier, pour être disponibles à l'action de l'Esprit Saint qui nous fait renaître et nous transforme, mais nous devons aussi, nous sommes invités à contempler cette gloire de Dieu, c'est-à-dire l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous devons enfin contempler cette vie éternelle qui nous est promise. Je continue le commentaire de l'Évangile de ce jour. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc fixons notre regard sur Dieu, sur sa gloire, sur son amour, fixons notre regard sur cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, au-delà de notre mort, mais dès ici-bas, dès maintenant. Il faudrait pour cela relire cette magnifique encyclique du pape Benoît XVI, Spe Salvi, sauvé dans l'espérance. Et vous savez que dans cette encyclique, le pape Benoît XVI soulignait un paradoxe assez étonnant. Il disait que personne d'entre nous désire mourir, car il y a cet instinct de survie inscrit au plus profond de l'être humain. Mais en même temps, personne ne souhaite vivre éternellement cette vie ici-bas sur cette terre. Parfois, on voit des personnes un peu âgées, c'est 100 ans, voilà, ou parfois on dit, allez, on vous souhaite encore beaucoup d'années, ah mon père, ne vous souhaitez pas tout ça. Parce que personne d'entre nous ne souhaite forcément vivre cette vie ici-bas éternellement. C'est ce que soulignait le pape Benoît XVI, et il disait que pour certains, vivre éternellement devient même insupportable, voire ennuyeux. Il citait aussi cette belle phrase de saint Ambroise, « L'immortalité serait un fardeau plutôt qu'un profit, sans le souffle de la grâce. » Alors, quelle vie souhaitons-nous vraiment? Vers quelle vie pouvons-nous fixer nos regards? Eh bien, vers cette vie éternelle qui est déjà commencée ici-bas, car, nous dit Jésus, la vie éternelle, et il le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, le seul Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Et nous le savons, nous le disons souvent, la connaissance de Dieu n'est pas simplement intellectuelle, mais cette connaissance de Dieu, elle est d'abord communion et donc vie. La vie éternelle, c'est un événement relationnel. Et par sa relation avec celui qui est lui-même la vie, l'homme devient alors aussi un vivant. Saint Irénée, il n'est pas très loin d'ici, disait ceci, nous connaissons cette phrase par cœur, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Voilà, pendant ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, nous sommes donc invités à prier, à invoquer l'Esprit Saint, à fixer notre regard sur la gloire de Dieu, cet amour infini de Dieu pour nous, sur cette vie éternelle qu'il veut nous faire partager pour que nous soyons des vivants. Et la conclusion, eh bien, c'est saint Pierre qui va nous la donner dans la deuxième lecture. Car saint Pierre nous invite à rendre gloire à Dieu, et surtout à rendre gloire à Dieu parce que nous sommes chrétiens. Que dit-il? Je le cite. « Comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. » Nous l'avons entendu dans la seconde lecture. En fait, Saint-Pierre s'adressait à des chrétiens persécutés et il les invitait dans la persécution à être fiers d'être chrétiens et à rendre gloire à Dieu pour ce nom de chrétien, pour le baptême qu'ils avaient reçu. Et nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment persuadés que notre plus haute dignité est d'être chrétien, c'est-à-dire des petits Christ qui participons à la vie du Christ. Tout autre titre n'est rien. Les diplômes, les décorations, la renommée, tout cela, cela ne sert à rien, c'est pas cela le plus important. Et ainsi, nous pouvons donc nous demander quelle est la gloire que nous désirons. Quelle est la gloire que je désire pour moi-même, pour ma vie, pour mon avenir? Est-ce celle qui consiste à impressionner les autres par mes prouesses, mes capacités, ou les biens que je possède? Ou est-ce que la gloire que je désire, c'est la voie, le chemin du don, de l'accueil de l'Esprit Saint dans ma vie, conscient de mes faiblesses, de mes fragilités, conscient d'avoir besoin d'être sauvé, sans cesse renouvelé dans ma capacité, ne serait-ce pas finalement, pour reprendre une expression du pape François, le chemin de Jésus crucifié que je désire, le chemin de celui qui ne se lasse pas d'aimer, confiant qu'il témoigne de Dieu dans le monde et fait resplendir la beauté de la vie. Oui, c'est peut-être cette gloire que nous pouvons demander pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, être remplis de cet amour de Dieu et de sa vie, et pouvoir ainsi glorifier Dieu par toute notre vie.